sur une carte du monde impossible de passer à côté de l'une des grandes énigmes de l'aventure humaine, cette présence d'une zone immense presque dépourvue d'habitants qu'est la Sibérie. L'histoire de l'exploration de la Sibérie est pourtant des plus extraordinaires, faite des figures les plus curieuses que l'humanité ait connues. Alors certes, il y avait bien sûr beaucoup de détenus politiques qui sont morts par millions, mais toutefois le gros du phénomène de la déportation en Sibérie date d'une époque récente, lorsque la Sibérie était déjà connue, j'allais dire conquise. Partir en Sibérie avant, pendant l'âge héroïque, où tout ce territoire n'était qu'un immense blanc sur les cartes du monde, c'était tout simplement l'équivalent d'un suicide. Il fallait avoir un tempérament plus que particulier, et chose que l'on n'évoque peut-être jamais, sans doute une bonne dose d'autisme. Il est temps de faire un aveu un peu intime, dont je n'ai encore jamais parlé en public. Pendant mon enfance, Jules Verne était mon auteur francophone préféré, mais j'avais un autre auteur fétiche, cette fois tchécophone. C'était Jan ou Jan Veltzl, W-E-L-Z-L, surnommé affectueusement Eskimo Veltzl. Oui, un Veltzl, c'est un nom bizarre, hein, ça sonne plus allemand que tchèque, et sa vie fut au moins aussi bizarre. Une vie tellement extraordinaire, tellement hors norme, que lorsque la nouvelle en parvint en Europe pendant les années 20, cela fit sensation. Certains interloqués refusèrent d'y croire et soutinrent que Jan Veltzl n'était qu'une invention littéraire. Pour le dire en une phrase, mais c'est cruel d'escamoter comme cela une vie aussi exceptionnellement remplie. Il était un beau jour, suite à des souffrances sur lesquelles il préfère ne pas parler, parti vers le grand inconnu, vers l'Est infini, accompagné d'un cheval et bientôt de meutes de loups affamés. Après des périples homériques, il décida de s'installer dans les lieux les plus reculés et inhospitaliers de l'Arctique et y vécut des décennies, fréquentant les populations locales. Le malheur survint lorsqu'il dut, à cause d'un accident, revenir en Europe. Des années de misère, de rejet total en Europe, jusqu'à ce que sa vie soit découverte, que la gloire littéraire lui tombe dessus, qu'il soit courtisé par les plus grands écrivains de l'époque et choyé par les hommes politiques. Comme on pouvait s'y attendre, il s'enfuit à nouveau vers le Grand Nord, et dès qu'il en eut la possibilité, et c'est là qu'il mourut, des années plus tard. Les gens se demandent parfois pourquoi il était parti d'Europe. Il aurait pu mener une vie paisible en Europe. Il n'était ni missionnaire, ni espion, ni scientifique, ni bagnard. C'était en apparence pure folie, mais il le dit clairement et à de nombreuses reprises. Il était parti car il ne supportait plus la présence de l'homme blanc, les structures d'oppression sociale, qu'il était trop différent pour pouvoir vivre en Europe. Une phrase qui m'avait marqué dans mon enfance et que je cite de mémoire à 30 ans de distance, je cite « Je préfère de beaucoup être seul face au feu qui s'éteint, entouré dans la nuit polaire des yeux jaunes clignotants des loups qui s'approchent, que d'être alarmé. » L'autre chose qui frappe, surtout dans le contexte colonial de l'époque, c'était la fraternité de Veltzl avec les populations locales non européennes du Grand Nord, des peuples qui étaient jadis particulièrement méprisés, traités moins bien que des chiens de traîneau. Veltzl semble avoir eu une affection marquée pour eux, les décrit avec un luxe de détails. Des détails certes parfois vérifiables que certains ont rapidement qualifiés de fictifs. Bon, il est vrai que toute narration aussi étendue met à l'épreuve la mémoire humaine, d'autant plus que Veltzl n'écrivait pas directement, mais par écrivain interposé. Il y a de nombreuses pages sombres dans les œuvres de Veltzl, les récits des mises à mort et des jugements hâtifs, car oui, Veltzl était un justicier, une sorte de Zorro polaire. Il traquait les Européens trafiquants d'alcool frelaté ainsi que les bandits. J'avais été beaucoup marqué pendant mon enfance par les détails des traques et des exécutions, par pendaison, armes à feu, parfois poison. Généralement, il laissait une minute à l'intéressé pour réciter ses prières. Un sens de la justice extrême, barbare parfois du fait des circonstances et des lieux, mais tout à fait compatible avec le profil autistique. Vance, c'était aussi quelqu'un qui maîtrisait presque toutes les langues du monde, mais aucune correctement. Il lui était commun de mélanger deux ou trois langues dans chaque phrase. Pourtant, quand je songe à Veltz, une grande tristesse m'envahit. D'une part, car une telle vie ne serait plus possible de nos jours, ne serait-ce qu'à cause des frontières nationales et des réglementations. D'autre part, de nos jours, qui des hommes politiques et même du grand public porte dans ses rêves les peuples du Grand Nord, lesquels d'ailleurs ont disparu pour la plupart. Et surtout, grande tristesse, parce que Veltz lui-même a sombré dans l'oubli. De nos jours, même les Tchèques et Ridi ne le connaissent plus. À vrai dire, Veltz n'en avait que faire de la gloire et de l'argent. Son pays, son univers, c'était celui des glaces qui craquent sous les pas de l'homme seul, sous la voûte noire de la nuit polaire.